Chapitre 3. Mina. Quatre ou cinq mois avant ces événements, Madame Josepha von Kerich, veuve depuis peu du conseiller d'État Stefan von Kerich, avait quitté Berlin où les fonctions de son mari les retenaient jusqu'alors, pour venir s'installer avec sa fillette dans la petite ville rhénane, son pays d'origine. Elle avait là une vieille maison de famille, avec un grand jardin, presque un parc, qui descendait le long de la colline jusqu'au fleuve, non loin de la maison de Christophe. De sa mansarde, Christophe voyait les branches lourdes des arbres qui pendaient hors des murs, et le haut faîte du toit rouge aux tuiles moussues. Une petite ruelle en pente, où l'on ne passait guère, longeait le parc à droite. On pouvait de là, en grimpant sur une borne, regarder par-dessus le mur. Christophe ne s'en faisait pas faute. Il voyait alors les allées envahies par l'herbe, les pelouses semblables à des prairies sauvages, les arbres se mêlant et luttant en désordre, et la façade blanche aux volets obstinément clos. Une ou deux fois par an, un jardinier venait faire une ronde et aérer la maison. La nature reprenait ensuite possession du jardin et tout rentrait dans le silence. Ce silence impressionnait Christophe. Il se hissait en cachette à son observatoire. À mesure qu'il devenait plus grand, ses yeux, puis son nez, puis sa bouche, arrivaient au niveau de la crête du mur. Maintenant, il pouvait passer les bras par-dessus en se haussant sur la pointe des pieds. Et malgré l'incommodité de cette position, il restait, le menton appuyé sur le mur, regardant, écoutant, tandis que le soir épanchait sur ses pelouses ses douces ondes dorées qui s'allumaient de reflets bleuâtres à l'ombre des sapins. Il s'oubliait là jusqu'à ce qu'il entendît dans la rue des pas qui venaient. La nuit flottait autour du jardin des parfums, de lilas au printemps, d'acacias en été, de feuilles mortes en automne. Quand Christophe revenait le soir du château, si fatigué qu'il fût, il s'arrêtait près de sa porte à boire leur souffle délicieux. Et il avait peine à rentrer dans sa chambre puante. Il avait aussi joué, du temps où il jouait, sur la petite place au pavé garnie d'herbes, devant la grille d'entrée de la maison Kerich. À droite et à gauche de la porte s'élevaient deux marronniers centenaires. Grand-père venait s'asseoir à leurs pieds en fumant sa pipe, et les fruits servaient aux enfants de projectiles et de jouets. Un matin, en passant dans la ruelle, il grimpa sur la borne par habitude. Il regardait distraitement. Il allait redescendre quand il eut la sensation de quelque chose d'anormal. Il tourna les yeux vers la maison. Les fenêtres étaient ouvertes. Le soleil se ruait à l'intérieur. Bien qu'on ne vît personne, la vieille demeure semblait réveillée de son sommeil de 15 ans et riait. Christophe revint troublé. À table, son père parla de ce qui alimentait les entretiens du quartier. L'arrivée de Madame de Kerich et de sa fille, avec une quantité incroyable de bagages. La place aux marronniers était remplie de badauds qui venaient assister au déballage des voitures. Christophe, très intrigué par cette nouvelle, qui, dans l'horizon borné de sa vie, était un événement important, retourna au travail, cherchant, d'après les récits de son père, hyperbolique comme à l'ordinaire, à imaginer les hôtes de la maison enchantée. Puis sa tâche le reprit. Et il avait oublié quand, près de rentrer chez lui, le soir, tout lui revint à l'esprit, et une curiosité le poussa à monter à son poste d'observation pour épier ce qui se passait à l'intérieur des murs. Il ne vit rien que les calmes allées où les arbres immobiles semblaient dormir dans les derniers rayons de soleil. Au bout de quelques minutes, il avait perdu le souvenir de l'objet de sa curiosité et il s'abandonnait à la douceur du silence. Cette place baroque, debout en équilibre instable sur le faîte de la borne, était un lieu d'élection pour ses rêves. Au sortir de la ruelle laide, étouffée dans l'ombre, les jardins ensoleillés avaient un rayonnement magique. Son esprit s'en allait à la dérive dans ces espaces harmonieux, et des musiques chantaient. Il s'endormait en elles. Il rêvait ainsi, les yeux, la bouche ouverte, et il n'aurait pu dire depuis quand il rêvait, car il ne voyait rien. Soudain, il eut un saisissement. Devant lui, au détour d'une allée, debout, le regardaient deux figures féminines. L'une, une jeune dame en noir, aux traits fins, incorrects, aux cheveux blonds cendrés, grande, élégante, un laisser-aller nonchalant dans la pose de la tête, l'observait avec des yeux bienveillants et railleurs. L'autre, une fillette de 15 ans, également en grand deuil, faisait la mine d'une enfant prise d'un accès de fou rire. Un peu en arrière de sa mère, qui, sans la regarder, lui faisait signe de se taire, elle se cachait la bouche dans ses mains, comme si elle avait toutes les peines du monde à s'empêcher d'éclater. C'était une fraîche figure, blanche, rose et blonde. Elle avait un petit nez un peu gros, une petite bouche un peu grosse, un petit menton grassouillet, de fins sourcils, des yeux clairs et une profusion de cheveux blonds qui, tressés en nattes, s'enroulaient en couronne autour de sa tête, découvrant la nuque blonde et le front lisse et blanc. Une petite figure de Cranach. Christophe fut pétrifié par cette apparition. Au lieu de se sauver, il resta cloué sur place. Ce ne fut que quand il vit la jeune dame faire quelques pas vers lui, avec son aimable sourire moqueur, qu'il s'arracha à son immobilité et sauta, dégringola, de la borne, entraînant avec lui les plâtres du mur. Il entendait une voix bienveillante qui l'appelait familièrement « Petit !» et un éclat de rire enfantin, clair, liquide comme une voix d'oiseau. Il se retrouva dans la ruelle, sur les genoux et les mains. Et, après une seconde d'ahurissement, il détala à toutes jambes, comme s'il avait peur qu'on le poursuivît. Il était honteux. Cette honte le reprenait par accès, dans sa chambre, tout seul. Depuis, il n'osa plus passer par la ruelle, dans la crainte baroque qu'on ne fût embusqué pour l'attendre. Quand il était forcé de s'aventurer près de la maison, il rasait les murs, baissait la tête et courait presque sans se retourner. En même temps, il ne cessait de penser aux deux aimables figures. Il montait au grenier, enlevant ses chaussures pour qu'on ne l'entendît pas, et il s'ingéniait à regarder par la lucarne, du côté de la maison et du parc des Kerriches, bien qu'il sût parfaitement qu'il était impossible de voir autre chose que le dôme des arbres et les cheminées du fête. Un mois après, il jouait dans un des concerts hebdomadaires du Hofmusikverein, un concerto de sa composition pour piano et orchestre. Il était arrivé au milieu de la dernière partie du morceau, quand il vit par hasard, dans la loge en face de lui, Madame de Kerriches et sa fille qui le regardaient. Il s'y attendait si peu qu'il en fut étourdi et qu'il faillit manquer sa réponse à l'orchestre. Il continua de jouer d'une façon mécanique jusqu'à la fin du concerto. Lorsque ce fut fini, il vit, bien qu'il évitât de regarder de leur côté, que Madame et Mademoiselle de Kerriches applaudissaient avec une légère exagération, comme si elles avaient voulu qu'il les vît applaudir. Il se hâta de quitter la scène. Au moment de sortir du théâtre, il aperçut Madame de Kerriches qui semblait le guetter au passage. Il était impossible qu'il ne la vît pas. Il feignit pourtant de ne pas la voir, et rebroussant chemin, il sortit précipitamment par la porte de service du théâtre. Ensuite, il se le reprocha, car il se rendait bien compte que Madame de Kerriches ne lui voulait aucun mal. Mais il savait que si c'était à recommencer, il recommencerait. Il avait la frayeur de la rencontrer dans la rue. Quand il apercevait au loin une forme qui lui ressemblait, il prenait un autre chemin. Ce fut elle qui vint à lui. Un matin qu'il rentrait pour dîner, Louisa, toute fière, lui raconta qu'un laquais en livrée était venu déposer une lettre à son adresse. Et elle lui remit une grande enveloppe bordée de noir, dont l'envers portait gravées les armes des Kerriches. Christophe l'ouvrit, tremblant de lire, précisément ce qu'il lut. Madame Josepha von Kerrich invitait Monsieur le Hofmusikus Christoph Kraft à venir prendre le thé chez elle aujourd'hui à 5h30. « Je n'irai pas, » déclara Christophe. « Comment ? » s'exclama Louisa. « J'ai dit que tu irais. » Christophe fit une scène à sa mère. Il lui reprocha de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Le domestique attendait la réponse. « J'ai dit que tu étais justement libre aujourd'hui. Tu n'as rien à cette heure. » Christophe eut beau s'irriter, jurer qu'il n'irait pas, il ne pouvait plus se dérober. Quand vint l'heure de l'invitation, il se prépara en rechignant. Secrètement, il n'était pas fâché que le hasard fît violence à sa mauvaise volonté. Madame de Kerriches n'avait pas eu de peine à reconnaître dans le pianiste du concert le petit sauvage dont la tête ébouriffée lui était apparue au-dessus du mur de son jardin. Elle avait pris des informations sur lui dans le voisinage, et ce qu'elle avait appris de la vie difficile et courageuse de l'enfant lui avait inspiré de l'intérêt pour lui et la curiosité de lui parler. Christophe, guindé dans une absurde redingote qui lui donnait l'air d'un pasteur de campagne, arriva à la maison, malade de timidité. Il cherchait à se persuader que Mme de Kerrich n'avait pas eu le temps de remarquer ses traits le premier jour qu'elle l'avait vu. Par un long corridor, dont le tapis étouffait les bruits de pas, un domestique l'introduisit dans une chambre dont une porte vitrée donnait sur le jardin. Il faisait ce jour-là une petite pluie froide. Un bon feu brûlait dans la cheminée. Près de la fenêtre, à travers laquelle on entrevoyait les silhouettes mouillées des arbres dans la brume, les deux femmes étaient assises, tenant sur leurs genoux Madame de Kerrich un ouvrage et sa fille un livre, dont elle faisait la lecture lorsque Christophe entra. Elles échangèrent, en le voyant, un coup d'œil malicieux. « Elles me reconnaissent, » pensa Christophe tout penaud. Il s'épuisait à faire de gauche révérence. Madame de Kerrich sourit gaiement et lui tendit la main. « Bonjour, mon cher voisin, » dit-elle, « je suis contente de vous voir. Depuis que je vous ai entendu au concert, je voulais vous dire le plaisir que vous nous aviez fait. Et comme le seul moyen de vous le dire était de vous faire venir, j'espère que vous me pardonnerez de l'avoir employé. » Il y avait dans ses paroles aimables et banales tant de cordialité, malgré une pointe cachée d'ironie, que Christophe se sentit rassuré. « Elles ne me reconnaissent pas, » pensa-t-il, soulagé. Madame de Kerrich désigna sa fille, qui avait fermé son livre et observait curieusement Christophe. « Ma fille Mina, » dit-elle, « qui désirait beaucoup vous voir. »« Mais, maman, » dit Mina, « ce n'est pas la première fois que nous nous voyons. » Et elle éclata de rire. « Elles m'ont reconnu, » pensa Christophe, atterré. « C'est vrai, » dit Madame de Kerrich en riant aussi. « Vous nous avez fait visite le jour de notre arrivée. » À ces mots, la fillette rit de plus belle, et Christophe prit un air si piteux que, quand Mina jetait les yeux sur lui, son rire redoublait. C'était un rire fou. Elle en pleurait. Madame de Kerrich, qui voulait l'arrêter, ne pouvait s'empêcher de rire aussi. Et Christophe, malgré sa gêne, fut gagné par la contagion. Leur bonne humeur était irrésistible, impossible de s'en formaliser. Mais Christophe perdit tout à fait contenance lorsque Mina, reprenant haleine, lui demanda ce qu'il pouvait bien faire sur leur mur. Elle s'amusait de son trouble et il balbutiait éperdu. Madame de Kerrich vint à son secours et détourna l'entretien en faisant servir le thé. Elle le questionna amicalement sur sa vie, mais il ne se rassurait pas. Il ne savait comment s'asseoir, il ne savait comment tenir sa tasse, qui menaçait de chavirer. Il se croyait obligé, à chaque fois qu'on lui offrait de l'eau, du lait, du sucre ou du gâteau, de se lever précipitamment et de remercier avec des révérences, raide, serré dans sa redingote, son col et sa cravate, comme une carapace, n'osant pas, ne pouvant pas tourner la tête ni à droite ni à gauche, ahuri par la multiplicité des questions de Madame de Kerrich et par l'exubérance de ses façons, et glacé par les regards de Mina, qu'il sentait attaché à ses traits, à ses mains, à ses mouvements, à son habillement. Elle le troublait encore plus en voulant le mettre à l'aise. Madame de Kerrich par son flot de paroles, Mina par les œillades coquettes qu'elle lui faisait pour s'amuser. Enfin, elles renoncèrent à tirer de lui autre chose que des salutations et des monosyllabes. Et Madame de Kerrich, qui faisait à elle seule tous les frais de la conversation, lui demanda, lassée, de se mettre au piano. Bien plus intimidé que par un public de concert, il joua un adagio de Mozart. Mais sa timidité même, le trouble que son cœur commençait d'éprouver auprès de ces deux femmes, l'émotion ingénue qui gonflait sa poitrine et le rendait heureux et malheureux ensemble, s'accordait avec la tendresse et la pudeur juvénile de ses pages et leur prêtait un charme de printemps. Madame de Kerrich en fut touchée. Elle le dit avec l'exagération louangeuse habituelle aux gens du monde. Elle n'en était pas moins sincère, et l'excès même de l'éloge était doux, venant d'une aimable bouche. La maligne Mina se taisait. Elle regardait avec étonnement ce garçon si stupide quand il parlait, et dont les doigts étaient si éloquents. Christophe sentait leur sympathie, et il s'enhardissait. Il continua de jouer, puis, se retournant à demi vers Mina, avec un sourire gêné et sans lever les yeux, « Voilà ce que je faisais sur le mur, » dit-il timidement. Il joua une petite œuvre où il avait en effet développé les idées musicales qui lui étaient venues à sa place favorite. En regardant le jardin, non pas, à vrai dire, le soir où il avait vu Mina et Madame de Kerrich, Ils cherchaient à se le persuader, pour quelles obscures raisons, mais bien des soirs avant. Et l'on pouvait retrouver dans le balancement tranquille de cet andante con moto les impressions sereines des chants d'oiseaux et de l'endormement majestueux des grands arbres dans la paix du soleil couchant. Ces deux auditrices l'écoutaient avec ravissement. Quand il eut fini, Madame de Querriche se leva, lui prit les mains avec sa vivacité habituelle et le remercia avec effusion. Mina battit des mains, cria que c'était admirable, et que, pour qu'il composât encore d'autres œuvres aussi sublimes que celle-là, elle lui ferait mettre une échelle contre le mur, afin qu'il pût travailler tout à son aise. Madame de Querriche dit à Christophe de ne pas écouter cette folle de Mina. Elle le pria, puisqu'il aimait son jardin, d'y venir aussi souvent qu'il voudrait, et elle ajouta qu'il n'aurait même pas besoin de venir les saluer si cela l'ennuyait. « Vous n'avez pas besoin de venir nous saluer, » trouva bon de répéter Mina. « Seulement, si vous ne venez pas, gare à vous !» Elle agitait le doigt d'un petit air menaçant. Mina n'avait nullement un désir impérieux que Christophe lui fît visite, ni même qu'il s'astreignît envers elle aux règles de la politesse. Mais il lui plaisait de produire un petit effet que son instinct lui faisait juger charmant. Christophe rougit de plaisir. Madame de Querriche acheva de le gagner par le tact avec lequel elle lui parla de sa mère et de son grand-père, qu'elle avait connu autrefois. L'affectueuse cordialité des deux femmes le pénétrait. Il s'exagérait cette bonté facile, cette bonne grâce mondaine, par le désir qu'il avait de la croire profonde. Il se mit à raconter ses projets, ses misères, avec une naïve confiance. Il ne s'apercevait plus de l'heure qui passait, et il eut un sursaut d'étonnement lorsqu'un domestique vint annoncer le dîner. Mais sa confusion se changea en bonheur quand Madame de Querriche lui dit de rester dîner avec elle, comme de bons amis qu'on allait être, qu'on était déjà. On lui mit son couvert entre la mère et la fille, et il donna une idée moins avantageuse de ses talents à table qu'au piano. Cette partie de son éducation avait été fort négligée. Il était disposé à croire qu'à table, manger et boire était l'essentiel, que la façon n'importait guère. Aussi la proprette Mina le regardait avec une moue scandalisée. On comptait qu'aussitôt après le souper, il s'en irait. Mais il les suivit dans le petit salon, il s'assit avec elle, il ne songeait pas à partir. Mina étouffait des bâillements et faisait des signes à sa mère. Il ne s'en apercevait pas, parce qu'il était grisé de son bonheur et qu'il pensait que les autres étaient comme lui. Parce que Mina, en le regardant, continuait de jouer des prunelles par habitude. Et enfin, parce qu'une fois assis, il ne savait plus comment se lever et prendre congé. Il serait resté toute la nuit si Madame de Querriche ne l'eût congédié avec un aimable sans-façon. Il partit, emportant en lui la lumière caressante des yeux bruns de Madame de Querriche, des yeux bleus de Mina. Il sentait sur sa main le fin contact des doigts délicats et doux comme des fleurs, et une subtile odeur qu'il n'avait jamais encore respirée l'enveloppait, l'étourdissait, le faisait défaillir. Il revint 2 jours après, comme ils en étaient convenus, pour donner une leçon de piano à Mina. À partir de ce moment, il venait régulièrement sous ce prétexte 2 fois par semaine, le matin, et bien souvent il retournait le soir pour faire de la musique et pour causer. Madame de Querriche le voyait volontiers. C'était une femme intelligente et bonne. Elle avait 35 ans lorsqu'elle avait perdu son mari, et bien que jeune de corps et de cœur, elle s'était retirée sans regret du monde où elle était fort lancée. Peut-être s'en séparait-elle d'autant plus facilement qu'elle s'y était beaucoup amusée et jugeait sainement qu'on ne peut à la fois avoir eu et avoir. Elle s'était attachée à la mémoire de M. de Querriche, non qu'elle eût eu pour lui, à aucun moment de son union, rien qui ressemblât à de l'amour. Il lui suffisait d'une bonne amitié. Elle avait des sens tranquilles et un esprit affectueux. Elle s'était consacrée à l'éducation de sa fille, mais la même modération qu'elle portait dans l'amour atténuait ce que la maternité a souvent d'exalté et de maladif, quand l'enfant est le seul être sur qui la femme puisse reporter ses jalouses exigences d'aimer et d'être aimée. Elle chérissait Mina, mais elle la jugeait avec clarté et ne se dissimulait aucune de ses imperfections, pas plus qu'elle ne cherchait à se faire illusion sur elle-même. spirituelle, sensée, elle avait un regard infaillible pour découvrir du premier coup d'œil le faible et le ridicule de chacun. Elle y trouvait plaisir sans l'ombre de méchanceté, car elle était aussi indulgente que railleuse, et tout en s'amusant des gens, elle aimait à leur rendre service. Le petit Christophe fournit à sa bonté et à son esprit critique une occasion de s'exercer. Durant les premiers temps de son séjour dans la ville, où son grand deuil la tenait à l'écart de la société, Christophe lui fut une distraction. Par son talent d'abord, elle aimait la musique, quoique n'étant pas musicienne. Elle y trouvait un bien-être physique et moral, où sa pensée s'engourdissait paresseusement dans une agréable mélancolie. Assise auprès du feu, tandis que Christophe jouait, un ouvrage dans les mains, et souriant vaguement, elle goûtait une jouissance muette au va-et-vient machinal de ses doigts et au mouvement incertain de sa rêverie, flottant parmi les images tristes ou douces du passé. Mais plus encore qu'à la musique, elle s'intéressait aux musiciens. Elle était assez intelligente pour sentir les rares dons de Christophe, bien qu'elle ne fût pas capable de discerner son originalité véritable. Elle se plaisait curieusement à surveiller l'éveil de cette flamme mystérieuse qu'elle voyait poindre en lui. Elle avait vite apprécié ses qualités morales, sa droiture, son courage, cette sorte de stoïcisme si touchant chez un enfant. Elle ne l'en regardait pas moins avec la perspicacité ordinaire de ses yeux fins et moqueurs. Elle s'amusait de sa gaucherie, de sa laideur, de ses petits ridicules. Elle ne le prenait pas tout à fait au sérieux. Elle ne prenait pas grand-chose au sérieux. Les saillies bouffonnes, les violences, l'humeur fantasque de Christophe lui faisaient croire d'ailleurs qu'il n'était pas très bien équilibré. Elle voyait en lui un de ses crafts qui étaient de braves gens et de bons musiciens, mais tous un peu toqués. Cette légère ironie échappait à Christophe. Il ne sentait que la bonté de Madame de Kerrich. Il était si peu habitué à ce qu'on fût bon pour lui. Bien que ses fonctions au palais le missent en contact journalier avec le monde, le pauvre Christophe était resté un petit sauvage, sans instruction et sans éducation. L'égoïsme de la cour ne s'occupait de lui que pour tirer profit de son talent, sans chercher à lui servir en rien. Il venait au palais, se mettait au piano, jouait et s'en allait, sans que jamais personne se donnât la peine de causer avec lui, si ce n'était pour lui faire quelques compliments distraits. Personne, depuis la mort du grand-père, ni à la maison, ni au dehors, n'avait eu la pensée de l'aider à s'instruire, à se conduire dans la vie, à devenir un homme. Il souffrait de son ignorance et de sa grossièreté de manière. Il suait sang et eau pour se former tout seul. Mais il n'y arrivait pas. Les livres, les entretiens, les exemples, tout lui manquait. Il eut fallu avouer sa détresse à un ami, et il ne pouvait s'y décider. Même avec Otto, il n'avait pas osé, parce qu'au premier mot qu'il avait hasardé, Otto avait pris un ton de supériorité dédaigneuse qui lui avait été comme une brûlure de fer rouge. Et voici qu'avec Madame de Kerrich, tout devenait aisé. D'elle-même, sans qu'il fût besoin de lui demander rien, il en coûtait tellement à l'orgueil de Christophe, elle lui remontrait doucement ce qu'il ne fallait pas faire, l'avertissait de ce qu'il fallait faire, lui donnait des conseils sur la façon de s'habiller, de manger, de marcher, de parler, ne lui laissait passer aucune faute d'usage, de goût ou de langage. Et il était impossible d'en être blessé, tant sa main était légère et attentive à ménager cet amour-propre ombrageux d'enfant. Elle fit son éducation littéraire sans avoir l'air d'y toucher. Elle ne semblait pas s'étonner de ses étranges ignorances. Mais elle ne négligeait aucune occasion de relever ses erreurs, simplement, tranquillement, comme s'il était tout naturel que Christophe se fût trompé. Au lieu de l'effaroucher par des leçons pédantes, elle avait imaginé d'occuper leur réunion du soir en faisant lire à Mina ou à lui de belles pages d'histoire ou des poètes allemands et étrangers. Elle le traitait en enfant de la maison, avec quelques petites nuances de familiarité protectrice qu'il n'apercevait pas. Elle s'occupait même de ses vêtements. Elle les lui renouvelait, elle lui tricotait un cache-nez de laine, elle lui faisait présent de menus objets de toilette, et avec tant de gentillesse qu'il ne se sentait pas gêné de ses soins et de ses cadeaux. Bref, elle avait pour lui ces petites attentions et cette sollicitude quasi maternelle que toute bonne femme a d'instinct pour tout enfant qui lui est confié, sans qu'il soit nécessaire qu'elle éprouve pour lui un sentiment profond. Mais Christophe croyait que cette tendresse s'adressait à lui personnellement, et il se fondait en reconnaissance. Il avait des effusions brusques et passionnées qui semblaient un peu ridicules à Madame de Kerich, mais qui ne laissaient point de lui faire plaisir. Avec Mina, les rapports étaient autres. Quand Christophe l'avait revue pour sa première leçon, tout enivré encore des souvenirs de la veille et des regards caressants de la fillette, il avait été surpris de trouver une petite personne entièrement différente de celle qu'il avait vue quelques heures auparavant. Elle le regardait à peine, n'écoutait pas ce qu'il disait, et lorsqu'elle levait les yeux vers lui, il les lisait une froideur si glaciale qu'il en était saisi. Il se tourmenta longtemps pour savoir en quoi il avait pu l'offenser. Il ne l'avait offensé en rien, et les sentiments de Mina ne lui étaient ni moins ni plus favorables aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui comme hier, Mina avait pour lui une parfaite indifférence. Si la première fois elle s'était mise en frais de sourire pour le recevoir, c'était par une coquetterie instinctive de petite fille qui s'amuse à essayer le pouvoir de ses yeux sur le premier venu, fût-il un chien coiffé qui s'offre à son désœuvrement. Mais dès le lendemain, cette conquête trop facile n'avait plus aucun intérêt pour elle. Elle avait sévèrement observé Christophe, et elle l'avait jugé un garçon laid, pauvre, mal élevé, qui jouait bien du piano, mais qui avait de vilaines mains, qui tenait sa fourchette à table d'une façon abominable, et qui coupait le poisson avec son couteau. Il lui paraissait donc fort peu intéressant. Elle voulait bien prendre des leçons de piano avec lui. Elle consentait même à s'amuser avec lui, parce qu'elle n'avait pas d'autre compagnon pour le moment, et que malgré ses prétentions à n'être plus une enfant, il lui venait par bouffée un besoin fou de dépenser son trop-plein de gaieté, que surexcitait, comme chez sa mère, la contrainte imposée par le deuil récent. Mais elle ne se souciait pas plus de Christophe que d'un animal domestique. S'il lui arrivait encore, dans ses jours de pire froideur, de lui faire les 12 yeux, c'était par pur oubli et parce qu'elle pensait à autre chose, ou bien tout simplement pour n'en pas perdre l'habitude. Le cœur de Christophe bondissait quand elle le regardait ainsi, et c'est à peine si elle le voyait. Elle se racontait des histoires. Cette jeune personne était à l'âge où l'on se caresse les sens avec des rêves agréables et flatteurs. Elle pensait constamment à l'amour, avec un grand intérêt et une curiosité qui n'était innocente que par son ignorance. D'ailleurs, elle n'imaginait l'amour, en demoiselle bien élevée, que sous l'espèce du mariage. La forme de son idéal était loin d'être fixée. Tantôt elle rêvait d'épouser un lieutenant, tantôt un poète dans le genre sublime et correct, à la Schiller. Un projet démolissait l'autre, et le dernier venu était toujours accueilli avec le même sérieux et une égale conviction. Les uns et les autres étaient tout prêts à céder le pas à une réalité avantageuse. Car il est remarquable de voir avec quelle aisance les jeunes filles romanesques oublient leurs rêves quand une apparence moins idéale, mais plus sûre, vient se présenter à elles. Au demeurant, la sentimentale Mina était tranquille et froide. En dépit de son nom aristocratique et de la fierté que lui donnait sa particule nobiliaire, elle avait une âme de petite ménagère allemande, à l'âge exquis de l'adolescence. Christophe ne comprenait naturellement rien au mécanisme compliqué, plus compliqué en apparence qu'en réalité, du cœur féminin. Il était souvent dérouté par les façons de ses belles amies, mais il était si heureux de les aimer qu'il leur faisait crédit de tout ce qui, chez elles, l'inquiétait et l'attristait un peu, afin de se persuader qu'il en était aimé autant qu'il les aimait. Un mot ou un regard affectueux le plongeait dans le ravissement. Il en était si bouleversé parfois qu'il avait des crises de larmes. Assis devant la table, dans le tranquille petit salon, à quelques pas de Madame de Kerich, qui cousait à la lueur de la lampe, Mina lisait de l'autre côté de la table, ils ne se parlaient pas. Par la porte entr'ouverte du jardin, on voyait le sable de l'allée briller au clair de lune, un murmure léger venait des cimes des arbres. Il se sentait le cœur gonflé de bonheur. Brusquement, sans raison, il sautait de sa chaise, se jetait aux genoux de Madame de Kerich, lui saisissait la main, armée ou non de l'aiguille, et la couvrait de baisers, y appuyait sa bouche, ses joues, ses yeux en sanglotant. Mina levait les yeux de son livre et haussait légèrement les épaules en faisant sa petite moue. Madame de Kerich regardait en souriant le grand garçon qui se roulait à ses pieds, et elle lui caressait la tête de sa main restée libre, en disant de sa jolie voix, affectueuse et ironique, « Eh bien, mon grand bêta, eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ?» Oh, la douceur de cette voix, de cette paix, de ce silence, de cette atmosphère délicate, sans cris, sans heurts, sans rudesse, de cette oasis au milieu de la rude vie, et, lumière héroïque, dorant de ses reflets les objets et les êtres, de ce monde enchanté qu'évoquait la lecture des divins poètes, Goethe, Schiller, Shakespeare, dorant de force, de douleur et d'amour. Mina lisait, la tête penchée sur le livre, la figure légèrement colorée par l'animation du débit, avec sa voix fraîche, qui s'éseyait un peu, et tâchait de prendre un ton important, quand elle parlait au nom des guerriers et des rois. Parfois, Madame de Kerich prenait elle-même le livre. Elle prêtait alors aux actions tragiques la grâce spirituelle et tendre de son être. Mais le plus souvent, elle écoutait, renversée dans son fauteuil, son éternel ouvrage sur ses genoux. Elle souriait à sa propre pensée, car c'était toujours elle qu'elle retrouvait au fond de toutes les œuvres. Christophe aussi avait essayé de lire, mais il avait dû y renoncer. Il ânonnait, s'embrouillait dans les mots, sautait les ponctuations, semblait ne rien comprendre, et était si ému qu'il devait s'arrêter au passage pathétique, sentant venir les larmes. Alors, dépité, il jetait le livre sur la table. Et ses deux amis riaient aux éclats. Combien il les aimait. Il emportait partout leur image avec lui, et cette image se mêlait à celle des figures de Shakespeare et de Goethe. Il ne les distinguait presque plus les unes des autres. Telle suave parole du poète, qui éveillait jusqu'au fond de son être des frémissements passionnés, ne se séparait plus pour lui de la chère bouche qui la lui avait fait entendre pour la première fois. 20 ans plus tard, il ne pourra relire ou voir jouer Egmont ou Roméo sans que surgisse à certains vers le souvenir de ses calmes soirées, de ses rêves de bonheur et les visages aimés de Madame de Kerich et de Mina. Il passait des heures à les regarder le soir quand elle lisait, la nuit quand il rêvait dans son lit éveillé, les yeux ouverts, le jour quand il rêvait au pupitre d'orchestre ou jouant machinalement les paupières à demi-closes. Il avait pour toutes deux la plus innocente tendresse, et ne connaissant pas l'amour, il se croyait amoureux. Mais il ne savait pas au juste s'il l'était de la mère ou de la fille. Il s'interrogeait gravement et ne savait laquelle choisir. Cependant, comme il lui semblait qu'il fallait se décider à tout prix, il penchait pour Madame de Kerich. Et en effet, il découvrit, aussitôt après avoir pris ce parti, que c'était elle qu'il aimait. Il aimait ses yeux intelligents, le sourire distrait de sa bouche entr'ouverte, son joli front d'un caractère si jeune, avec l'arrêt de côté dans les cheveux fins et lisses, sa voix un peu voilée, avec sa petite toux, ses mains maternelles, l'élégance de ses mouvements et son âme inconnue. Il frissonnait de bonheur quand, assise auprès de lui, elle lui expliquait avec bonté un passage d'un livre qu'il ne comprenait pas. Elle appuyait sa main sur l'épaule de Christophe. Il sentait la tiédeur de ses doigts, son haleine sur sa joue et le doux parfum de son corps. Il écoutait dans l'extase, ne pensait plus au livre et ne comprenait rien. Elle s'en apercevait. Elle lui demandait de répéter ce qu'elle avait dit. Il restait muet. Elle se fâchait en riant et lui poussait le nez dans son livre, en lui disant qu'il ne serait jamais qu'un petit âne, à quoi il répliquait que cela lui était égal, pourvu qu'il fût son petit âne, et qu'elle ne le chassât pas de chez elle. Elle feignait de faire des difficultés, puis elle disait que, bien qu'il fût un vilain petit âne, fort stupide, elle consentait à le garder, et peut-être même à l'aimer, quoiqu'il ne fût bon à rien, si au moins il était bon tout court. Alors ils riaient tous deux, et ils nageaient dans la joie. Depuis qu'il avait découvert qu'il aimait Madame de Kerich, Christophe se détachait de Mina. Il commençait à être irrité de sa froideur dédaigneuse. Et comme, à force de la voir, il s'était enhardi peu à peu à reprendre avec elle sa liberté de manière, il ne lui cachait pas sa mauvaise humeur. Elle aimait à le piquer, et il répliquait vertement. Il se disait des choses désagréables, dont Madame de Kerrich ne faisait que rire. Christophe, qui n'avait pas le dessus dans cette joute de paroles, sortait parfois si exaspéré qu'il croyait détester Mina. Il se persuadait qu'il ne revenait chez elle qu'à cause de Madame de Kerrich. Il continuait à lui enseigner le piano. Deux fois par semaine, le matin de 9 heures à 10 heures, il surveillait les gammes et les exercices de la fillette. La chambre où il se tenait était le studio de Mina. Curieuse salle de travail qui reflétait avec une fidélité amusante le fouillis baroque de ce petit cerveau féminin. Sur la table, de minuscules statuettes de chats musiciens, tout un orchestre, l'un jouant du violon, l'autre du violoncelle. Une petite glace de poche, des objets de toilette et des objets pour écrire, parfaitement rangés. Sur l'étagère, des bustes microscopiques de musiciens. Beethoven renfrogné, Wagner avec son béret et l'Apollon du Belvédère. Sur la cheminée, à côté d'une grenouille fumant une pipe de roseau, un éventail en papier sur lequel était peint le théâtre de Bayreuth. Dans la bibliothèque à deux rayons, quelques livres. Lübke, Mommsen, Schiller, Sans famille, Jules Verne, Montaigne. Au mur, de grandes photographies de la Vierge Sixtine et des tableaux de Vercomère. Elles étaient bordées de rubans bleus et verts. Il y avait aussi une vue d'hôtel suisse dans un cadre de chardons argentés. Et surtout une profusion, partout, dans tous les coins de la chambre, de photographies d'officiers, de ténors, de chefs d'orchestre, d'amis, toutes avec des dédicaces, presque toutes avec des vers, ou du moins avec ce qu'on est convenu en Allemagne d'appeler des vers. Au milieu de cette pièce, sur un socle de marbre, trônait le buste de Brahms barbu. Et au-dessus du piano se balançaient au bout d'un fil de petits singes en peluche et des souvenirs de cotillons. Mina arrivait en retard, les yeux encore gonflés de sommeil, l'air boudeur. Elle tendait à peine la main à Christophe, disait un froid bonjour et, muette, grave et digne, allait s'asseoir au piano. Quand elle était seule, elle se plaisait à faire d'interminables gammes, car cela lui permettait de prolonger agréablement son état de demi-sommeil et les rêves qu'elle se contait. Mais Christophe l'obligeait à fixer son attention sur des exercices difficiles. Aussi, pour se venger, elle s'ingéniait quelquefois à jouer le plus mal qu'elle pouvait. Elle était assez musicienne, mais n'aimait pas la musique, comme beaucoup d'Allemandes. Mais, comme beaucoup d'Allemandes, elle croyait devoir l'aimer. Et elle prenait ses leçons assez consciencieusement, à part quelques moments de malice diabolique pour faire enrager son maître. Elle le faisait enrager bien davantage par l'indifférence glaciale avec laquelle elle s'appliquait. Le pire était que quand elle imaginait qu'il était de son devoir de mettre de l'âme dans un passage d'expression, elle devenait sentimentale et elle ne sentait rien. Le petit Christophe, assis auprès d'elle, n'était pas très poli. Il ne lui faisait jamais de compliments, loin de là. Elle lui en gardait rancune et ne laissait passer aucune de ses observations sans réplique. Elle discutait tout ce qu'il disait. Quand elle se trompait, elle s'obstinait à soutenir qu'elle jouait ce qui était marqué. Il s'irritait, et il continuait à échanger des impertinences. Les yeux baissés sur les touches, elle observait Christophe et jouissait de sa fureur. Pour se désennuyer, elle inventait de petites ruses stupides qui n'avaient d'autre objet que d'interrompre la leçon et d'agacer Christophe. Elle feignait de s'étrangler pour se rendre intéressante. Elle avait une quinte de tout, ou bien elle avait quelque chose de très important à dire à la femme de chambre. Christophe savait que c'était de la comédie. Et Mina savait que Christophe savait que c'était de la comédie. Et elle s'en amusait, car Christophe ne pouvait lui dire ce qu'il pensait. Un jour qu'elle se livrait à ce divertissement, et qu'elle toussotait languissamment, le museau caché dans son mouchoir, comme si elle était près de suffoquer, guettant du coin de l'œil Christophe exaspéré, elle eut l'idée ingénieuse de laisser tomber le mouchoir pour forcer Christophe à le ramasser, ce qu'il fit de la plus mauvaise grâce du monde. Elle l'en récompensa d'un merci de grande dame qui faillit le faire éclater. Elle jugea ce jeu trop bon pour ne pas le redoubler. Le lendemain, elle recommença. Christophe ne broncha pas. Il bouillait de colère. Elle attendit un moment, puis dit d'un ton dépité, « Voudriez-vous, je vous prie, ramasser mon mouchoir ?» Christophe n'y tint plus. « Je ne suis pas votre domestique, » cria-t-il grossièrement. « Ramassez-le vous-même. » Mina fut suffoquée. Elle se leva brusquement de son tabouret qui tomba. « Oh, c'est trop fort !» dit-elle, tapant rageusement sur le clavier. Elle sortit furieuse. Christophe l'attendit. Elle ne revint pas. Il avait honte de son action. Il sentait qu'il s'était conduit comme un petit goujat. Aussi, il était à bout. Elle se moquait de lui avec trop d'effronterie. Il craignait que Mina ne se plaignît et qu'il ne se fût aliéné pour toujours l'esprit de Madame de Kerriche. Il ne savait que faire, car s'il regrettait sa brutalité, pour rien au monde, il n'eût demandé pardon. Il revint à tout hasard le lendemain, quoiqu'il pensât que Mina refuserait de prendre sa leçon. Mais Mina, qui était trop fière pour se plaindre, dont la conscience n'était pas d'ailleurs à l'abri de tout reproche, reparut, après s'être fait attendre 5 minutes de plus qu'à l'ordinaire, et elle alla s'asseoir devant le piano, droite, raide, sans tourner la tête, ni prononcer un mot, comme si Christophe n'existait pas. Elle n'en prit pas moins sa leçon et toutes les leçons suivantes, parce qu'elle savait fort bien que Christophe se connaissait en musique et qu'elle devait apprendre à jouer proprement du piano, si elle voulait être, ce qu'elle prétendait être, une demoiselle bien née d'une éducation accomplie. Mais qu'elle s'ennuyait, qu'ils s'ennuyaient tous deux. Un matin de mars brumeux, que de petits flocons de neige voltigeaient comme des plumes dans l'air gris, ils étaient dans le studio. Il faisait à peine jour. Mina discutait, selon son habitude, une fausse note qu'elle avait faite et prétendait que c'était écrit. Bien qu'il sût parfaitement qu'elle mentait, Christophe se pencha sur le cahier pour voir de près le passage en question. Elle avait sa main posée sur le pupitre, elle ne la dérangea même pas. Il avait la bouche tout près de cette main. Il essayait de lire et n'y parvenait pas. Il regardait autre chose, cette chose délicate, transparente comme des pétales de fleurs. Brusquement, il ne sut ce qui lui passait par la tête, il appuya de toutes ses forces ses lèvres sur cette menotte. Ils en furent aussi saisis l'un que l'autre. Il se rejeta en arrière, elle retira sa main, rougissant tous les deux. Ils ne se dirent pas un mot, ils ne se regardaient pas. Après un moment de silence confus, elle se remit à jouer. Sa poitrine se soulevait légèrement, comme si elle était oppressée, et elle faisait fausse note sur fausse note. Il ne s'en apercevait pas, il était bien plus troublé qu'elle. Ses tempes battaient, il n'entendait rien, et pour rompre le silence, faisait d'une voix étranglée quelques observations à tort et à travers. Il pensait qu'il était définitivement perdu dans l'opinion de Mina. Il était confondu de son action, il la jugeait stupide et grossière. L'heure de la leçon écoulée, il quitta Mina sans la regarder, et il oublia même de la saluer. Elle ne lui en voulut pas. Elle ne pensait plus à trouver Christophe mal élevé. Si elle avait fait tant de fautes en jouant, c'est qu'elle ne cessait de l'observer du coin de l'œil avec une curiosité étonnée et, pour la première fois, sympathique. Quand elle fut seule, au lieu d'aller retrouver sa mère, comme les autres jours, elle s'enferma dans sa chambre et s'interrogea sur cet événement extraordinaire. Elle mordait légèrement sa lèvre dans l'effort de la réflexion. Et tout en regardant avec complaisance son gentil visage, elle revoyait la scène, rougissait et souriait. À table, elle fut animée et joyeuse. Elle refusa de sortir ensuite et resta au salon une partie de l'après-midi. Elle avait un ouvrage à la main et n'y fit pas 10 points qui ne fussent de travers. Mais que lui importait? Dans un coin de la chambre, le dos tourné à sa mère, elle souriait. Ou, prise d'un soudain besoin de se détendre, elle bondissait dans la pièce en chantant à tue-tête. Madame de Kerriche tressautait et l'appelait folle. Mina se jetait à son cou en se tordant de rire et l'embrassait à l'étrangler. Le soir, rentrée dans sa chambre, elle fut longtemps avant de se coucher. Elle se regardait toujours dans sa glace, cherchait à se souvenir et ne pensait à rien, à force d'avoir pensé tout le jour à la même chose. Elle se déshabilla lentement. Elle s'arrêtait à chaque instant, assise sur son lit, cherchant à retrouver l'image de Christophe. C'était un Christophe de fantaisie qui lui apparaissait, et maintenant il ne lui semblait plus si mal. Elle se coucha et éteignit la lumière. 10 minutes après, la scène du matin lui revint brusquement à l'esprit et elle éclata de rire. Sa mère se leva doucement et ouvrit la porte, croyant que malgré sa défense, elle lisait dans son lit. Elle trouva Mina tranquillement couchée, les yeux grands ouverts dans la demi-lueur de la veilleuse. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle, « qui te met en gaieté ?»«
Rien du tout, » répondit gravement Mina, « je pense. »
« Tu es bien heureuse de t'amuser ainsi dans ta compagnie, mais maintenant il faut dormir. »«
Oui, maman, » répondit la docile Mina.
En elle-même, elle grondait, « mais va-t'en donc, va-t'en donc !» Jusqu'à ce que la porte se referma et qu'elle pût continuer à savourer ses rêves. Elle tomba dans un molle engourdissement. Tout près de s'endormir, elle sursauta de joie.
« Il m'aime ! Quel bonheur ! Qu'il est gentil de m'aimer ! Comme je l'aime !»
Elle embrassa son oreiller et s'endormit tout à fait. La première fois que les deux enfants se retrouvèrent ensemble, Christophe fut surpris de l'amabilité de Mina. Elle lui dit bonjour et lui demanda comment il allait, avec une voix très douce. Et elle s'assit au piano, d'un air sage et modeste. Et elle fut un ange de docilité. Elle n'eut plus aucune de ses fantaisies de malicieuse écolière. Mais elle écoutait religieusement les observations de Christophe, reconnaissait leur justesse, poussait elle-même de petits cris effarouchés quand elle avait fait une faute, et s'appliquait à se corriger. Christophe n'y comprenait rien. En très peu de temps, elle fit des progrès étonnants. Non seulement elle jouait mieux, mais elle aimait la musique. Si peu flatteur qu'il fût, il dut lui en faire compliment. Elle rougit de contentement et l'en remercia d'un regard humide de reconnaissance. Elle se mettait en frais de toilette pour lui. Elle avait des rubans d'une nuance exquise. Elle faisait à Christophe des sourires et des yeux langoureux qui lui déplaisaient, qui l'irritaient, qui le remuaient jusqu'au fond de l'âme. À présent, c'était elle qui cherchait à causer. Mais ses conversations n'avaient rien d'enfantin. Elle parlait gravement et citait les poètes d'un petit ton pédant et prétentieux. Lui ne répondait guère. Il était mal à l'aise. Cette nouvelle Mina, qu'il ne connaissait pas, l'étonnait et l'inquiétait. Elle l'observait toujours. Elle attendait.
Quoi ?
Le savait-elle exactement ? Elle attendait qu'il recommençât. Il s'en fut bien gardé, convaincu qu'il avait agi comme un rustre. Il semblait même n'y plus penser du tout. Elle s'énervait. Et un jour qu'il était tranquillement assis, à distance respectable des dangereuses petites pattes, une impatience la prit. D'un mouvement si prompt qu'elle n'eut pas le temps d'y réfléchir, elle lui colla sa menotte sur les lèvres. Il en fut ahuri, puis furieux et honteux. Il ne la baisa pas moins et passionnément. Cette effronterie naïve l'indignait. Il était sur le point de planter la Mina. Mais il ne pouvait plus. Il était pris. Un tumulte de pensées s'agitait en lui. Il n'y reconnaissait rien. Comme des vapeurs qui montent d'une vallée, elles s'élevaient du fond de son cœur. Il allait en tous sens, au hasard, dans cette brume d'amour. Et quoi qu'il fît, il ne faisait que tourner en rond autour d'une obscure idée fixe, un désir inconnu, redoutable et fascinant, comme la flamme pour l'insecte. Soudain bouillonnement des forces aveugles de la nature. Ils passèrent par une période d'attente. Ils s'observaient, se désiraient et se craignaient tous deux. Ils étaient inquiets. Ils n'en continuaient pas moins leurs petites hostilités et leurs bouderies. Mais il n'y avait plus de familiarité entre eux. Ils se taisaient. Chacun était, en silence, occupé à construire son amour. L'amour a de curieux effets rétroactifs. Dès l'instant que Christophe découvrit qu'il aimait Mina, il découvrit du même coup qu'il l'avait toujours aimée. Depuis 3 mois, il se voyait presque chaque jour, sans qu'il se fût douté de cet amour. Mais du moment qu'il l'aimait aujourd'hui, il fallait absolument qu'il l'eût aimée de toute éternité. Ce fut un bien-être pour lui de découvrir enfin qui il aimait. Il y avait si longtemps qu'il aimait sans savoir qui. Il fut soulagé, à la façon d'un malade, qui, souffrant d'un malaise général, vague et énervant, le voit se préciser en une douleur aiguë, localisée sur un point. Rien ne brise autant que l'amour sans objet précis. Il ronge et dissout les forces. Une passion qu'on connaît tend l'esprit à l'excès. On est harassé. Du moins, on sait pourquoi. Tout plutôt que le vide. Bien que Mina eût donné à Christophe de bonnes raisons de croire qu'il ne lui était pas indifférent, il ne manquait pas de se tourmenter et pensait qu'elle le dédaignait. Ils n'avaient jamais eu une idée nette l'un de l'autre. Mais jamais cette idée n'avait été plus confuse qu'aujourd'hui. C'était une suite incohérente d'imaginations baroques qui ne parvenaient pas à s'accorder ensemble, car ils passaient d'un extrême à l'autre, se prêtant tour à tour des défauts et des charmes qu'ils n'avaient pas. Ceci quand ils étaient éloignés l'un de l'autre, cela quand ils étaient réunis. Dans les deux cas, ils se trompaient juste autant. Ils ne savaient pas ce qu'ils désiraient eux-mêmes. Pour Christophe, son amour prenait la forme de cette soif de tendresse, impérieuse, absolue, qui le brûlait depuis l'enfance, qu'il réclamait des autres, qu'il eût voulu leur imposer, de gré ou de force. Par moments, se mêlait à ce désir despotique d'un sacrifice entier de soi et des autres, surtout des autres peut-être, des bouffées de désir brutal et obscur qui lui donnaient le vertige et qu'il ne comprenait pas. Mina, surtout curieuse et ravie d'avoir un roman, cherchait à en tirer tout le plaisir possible d'amour-propre et de sentimentalité. Elle se dupait de tout cœur sur ce qu'elle éprouvait. Une bonne partie de leur amour était purement livresque. Ils se ressouvenaient des romans qu'ils avaient lus et se prêtaient des sentiments qu'ils n'avaient point. Mais le moment venait où ces petits mensonges, ces petits égoïsmes allaient s'évanouir devant le divin rayonnement de l'amour. Un jour, une heure, quelques secondes éternelles. Et ce fut si inattendu. Ils causaient seuls un soir. L'ombre tombait dans le salon. Leur entretien avait pris une teinte grave. Ils parlaient de l'infini, de la vie et de la mort. C'était un cadre plus grandiose pour leur passionnette. Mina se plaignait de sa solitude, ce qui amena naturellement la réponse de Christophe qu'elle n'était pas si seule qu'elle disait. « Non, » fit-elle en secouant sa petite tête. « Tout cela, ce sont des mots. Chacun vit pour soi. Personne ne s'intéresse à vous. Personne ne vous aime. » Un silence. « Et moi ?» dit brusquement Christophe, pâle d'émotion. La porte s'ouvrit. Ils se rejetèrent en arrière. Madame de Kerich entra. Christophe se plongea dans un livre qu'il lisait à l'envers. Mina, pliée sur son ouvrage, s'enfonçait son aiguille dans le doigt. Ils ne se trouvèrent plus seuls de toute la soirée. Et ils avaient peur de l'être. Madame de Kerich s'est enlevée pour chercher un objet dans la chambre voisine. Mina, peu complaisante d'ordinaire, courut le prendre à sa place. Et Christophe profita de son absence pour partir sans lui dire bonsoir. Le lendemain, ils se retrouvèrent, impatients de reprendre l'entretien interrompu. Ils n'y réussirent point. Les circonstances leur furent cependant favorables. Ils allèrent en promenade avec Madame de Kerich, et ils eurent 10 occasions de causer à leur aise, mais Christophe ne pouvait parler. Et il en était si malheureux qu'il se tenait sur la route le plus loin possible de Mina. Celle-ci faisait semblant de ne pas remarquer son impolitesse, mais elle en fut piquée, et elle le montra bien. Quand Christophe se força enfin à articuler quelques mots, elle l'écouta d'un air glacé, et ce fut à peine s'il eut le courage d'aller jusqu'au bout de sa phrase. La promenade s'achevait. Le temps passait, et il se désolait de n'avoir pas su l'employer. Une semaine s'écoula. Ils crurent s'être trompés sur leurs sentiments réciproques. Ils n'étaient pas sûrs de n'avoir pas rêvé la scène de l'autre soir. Mina gardait rancune à Christophe. Christophe redoutait de la rencontrer seule. Ils étaient plus en froid que jamais. Un jour vint. Il avait plu toute la matinée et une partie de l'après-midi. Ils étaient restés enfermés dans la maison, sans se parler, à lire, bâiller, regarder par la fenêtre. Ils étaient ennuyés et maussades. Vers 4 heures, le ciel s'éclaircit. Ils coururent au jardin. Ils s'accoudèrent sur la terrasse, contemplant au-dessous d'eux les pentes de gazon qui descendaient vers le fleuve. La terre fumait. Une tiède vapeur montait au soleil. Des gouttelettes de pluie étincelaient sur l'herbe. L'odeur de la terre mouillée et le parfum des fleurs se mêlaient. Autour d'eux bruissait le vol doré des abeilles. Ils étaient côte à côte et ne se regardaient pas. Ils ne pouvaient se décider à rompre le silence. Une abeille vint gauchement s'accrocher à une grappe de glycine, lourde de pluie, et fit basculer sur elle une cataracte d'eau. Ils rirent en même temps. Et aussitôt, ils sentirent qu'ils ne se boudaient plus,
qu'ils étaient bons amis. Pourtant, ils continuaient à ne pas se regarder. Brusquement, sans tourner la tête, elle lui prit la main et elle lui dit « Venez ». Elle l'entraîna en courant vers le petit labyrinthe boisé au sentier bordé de buis qui s'élevait au centre du bosquet. Ils escaladèrent la pente, ils glissaient sur le sol détrempé, et les arbres mouillés secouaient sur eux leurs branches. Près d'arriver au faîte, elle s'arrêta pour respirer. « Attendez, attendez, » dit-elle tout bas, tâchant de reprendre haleine. Il la regarda. Elle regardait d'un autre côté. Elle souriait, haletante, la bouche entr'ouverte. Sa main était crispée dans la main de Christophe. Ils sentaient leur sang battre dans leurs paumes pressées et leurs doigts qui tremblaient. Autour d'eux, le silence. Les pousses blondes des arbres frissonnaient au soleil. Une petite pluie s'égouttait des feuilles, avec un bruit argentin. Et dans le ciel passaient les cris aigus des hirondelles. Elle se retourna vers lui. Ce fut un éclair. Elle se jeta à son cou, il se jeta dans ses bras. « Mina, Mina, chérie, je t'aime, Christophe, je t'aime. » Ils s'assirent sur un banc de bois mouillé. Ils étaient pénétrés d'amour, un amour doux, profond, absurde. Tout le reste avait disparu. Plus d'égoïsme, plus de vanité, plus d'arrière-pensée. Toutes les ombres de l'âme étaient balayées par ce souffle d'amour. « Aimer, aimer !» disaient leurs yeux riants et humides de larmes. Cette froide et coquette petite fille, ce garçon orgueilleux, était dévoré du besoin de se donner, de souffrir, de mourir l'un pour l'autre. Ils ne se reconnaissaient plus. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Tout était transformé. Leurs cœurs, leurs traits, leurs yeux rayonnaient d'une bonté et d'une tendresse touchantes. Minutes de pureté, d'abnégation, de don absolu de soi, qui ne reviendront plus dans la vie. Après un balbutiement éperdu, après des promesses passionnées d'être l'un à l'autre toujours, après des baisers et des mots incohérents et ravis, ils s'aperçurent qu'il était tard, et ils revinrent en courant, se tenant par la main, au risque de tomber dans les allées étroites, se heurtant aux arbres, ne sentant rien, aveugle et ivre de joie. Lorsqu'il l'eut quitté, il ne rentra pas chez lui. Il n'aurait pu dormir. Il sortit de la ville et marcha à travers champs. Il se promena au hasard dans la nuit. L'air était frais, la campagne obscure et déserte. Une chouette ululait frileusement. Il allait comme un somnambule. Il monta la colline au milieu des vignes. Les petites lumières de la ville tremblaient dans la plaine et les étoiles dans le ciel sombre. Il s'assit sur un mur du chemin et fut pris brusquement d'une crise de larmes. Il ne savait pourquoi. Il était trop heureux, et l'excès de sa joie était fait de tristesse et de joie. Il s'y mêlait de la reconnaissance pour son bonheur, de la pitié pour ceux qui n'étaient pas heureux. Un sentiment mélancolique et doux de la fragilité des choses, l'enivrement de vivre. Il pleura avec délice. Il s'endormit au milieu de ses pleurs. Quand il se réveilla, c'était l'aube incertaine. Les brouillards blancs traînaient sur le fleuve et enveloppaient la ville, où Mina dormait, écrasée de fatigue, le cœur illuminé par un rire de bonheur.